Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui disent ce que l'Afrique révèle du monde. La saison culturelle Africa 2020 se déroulera à partir de début juin jusqu'à mi-décembre, mais on ne pouvait pas attendre jusque-là pour parler du livre d'Achille Mbembe, Brutalisme, brut comme les matériaux utilisés par les architectes du même nom qui font écho aux matériaux humains dont est faite la politique aujourd'hui, où le pouvoir s'exerce sur les corps comme elle le fait sur les matières. Première, l'Afrique passée, présente et future offre ici un formidable espace d'expérience et de réflexion. Espace qu'explore également Alain Mabankou qui publie ses 8 leçons sur l'Afrique prononcées au Collège de France pour une réflexion de l'écrivain franco-congolais sur la littérature africaine d'expression française. De cette impensée de l'histoire littéraire en France, Mabankou propose une relecture en forme de dialogue. Et en studio pour débattre ce soir, Alyosha Waldazowski de L'Express. Bonsoir Alyosha.
Bonsoir Raphaël.
Et Jean-Marie Durand, journaliste indépendant. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre d'Achille Mbembe, Brutalisme, publié aux éditions de La Découverte. Professeur d'histoire et de sciences politiques, chercheur à l'université Witwatersrand de Johannesburg, en Afrique du Sud. Achille Mbembe est l'un des intellectuels africains les plus importants aujourd'hui. Il a par exemple fondé, avec l'économiste et écrivain sénégalais Félouine Sarr, les Ateliers de la Pensée à Dakar. Il est lauréat du prestigieux prix allemand Ernst Bloch en 2018 et il est l'invité depuis quelques années d'à peu près toutes les universités du monde entier. Comme il le rappelle en avant-propos de cet essai, ses réflexions portent depuis le dernier quart du XXe siècle sur la pratique et l'expérience du pouvoir. Si son point de départ est le contexte africain moderne, il étend son analyse à ce qu'il définit comme un exercice de démolition des êtres, des choses, des rêves et de la vie en général, exercice mené évidemment par le capitalisme. Achille Mbembe met au centre de sa pensée l'expérience coloniale et bâtit patiemment un discours sur ce que l'Afrique est devenue, aurait pu être, aurait pu accomplir à la lumière de cette expérience historique. Puis il en tire des réflexions sur les rapports entre mémoire, potentialité et ce qu'il appelle futurité. C'est ce qu'il développait aussi bien en 2013 dans La critique de la raison nègre qu'en 2016 dans Politique de l'intimité et qu'il continue donc d'explorer dans Brutalisme, une africanisation tendancielle de la condition planétaire. À l'heure où tout semble pousser à l'unification mais où les divisions se radicalisent, cette pensée africaine portée par Achille Mbembe propose de s'appuyer sur une certaine expérience de la catastrophe, de l'extraction et de la domination. C'est aussi une réponse au collapsologue, à la collapsologie. Aujourd'hui, Jean-Marie Durand, le brutalisme, c'est un terme donc emprunté à l'architecture, une façon pour Mbembe d'évoquer une transformation de l'humanité en matière, en énergie, sous l'effet conjugué de la politique et de la technique. Commençons par tenter de mieux cerner ce concept de brutalisme, si vous le voulez bien.
Ah, le brutalisme, pour Achille Mbembe, est ce qu'il appelle une image pensée, c'est-à-dire un concept, une manière d'analyser de manière un peu globale et transversale l'usage de la force aujourd'hui pour le dire vite, ce qu'il appelle une manière d'administrer la force. Alors le brutalisme, vous l'avez rappelé, c'est aujourd'hui une tradition architecturale qui est d'ailleurs réactivée dans le monde aujourd'hui des arts et de la création et presque comme une sorte de nostalgie, presque fétichisée. Le brutalisme en architecture, maintenant, ça, on en fait des livres, les architectes n'arrêtent pas de nous dire c'est génial. Et d'ailleurs, à titre personnel, c'est une tradition qui m'intéresse beaucoup. J'adore les immeubles de brutalisme, me plaisent énormément.
Oui, qui sont des immeubles de béton, des années 70,
Corbusier, voilà, qui sont un peu massifs, un peu gris, un peu noir, un peu fort, avec une violence comme ça, un peu tellurique, un peu bon. Des bâtiments d'ailleurs qui souvent ont longtemps suscité une sorte de rejet très fort, parce que spontanément ils sont pas extrêmement beaux, mais aujourd'hui ils sont revus différemment. Voilà, l'architecture, elle se vit aussi dans l'époque. On voit bien que les regards se transforment, etc. Une ville comme Le Havre qui a été vue comme une ville horrible il y a 50 ans. Est vu comme une sorte de maintenant de chef-d'œuvre architectural. Bref, c'est une parenthèse juste pour rappeler que le brutalisme pour Achille Mbembe, c'est pour lui le concept, si vous voulez, qui pourrait définir notre monde contemporain, qu'il définit lui-même par une politique de forçage des corps, des imaginaires, des esprits, comme quelque chose, comme un monde qui développe des pulsions infâmes, des énergies infâmes, il dit, je crois, à son expression, c'est-à-dire des énergies infâmes qu'on pourrait définir comme le racisme, la xénophobie d'État, le virilisme. l'esthétisme, qui est un concept, enfin une notion qui développe pas mal dans le livre. Achille Mbembe, faut peut-être le dire au départ, c'est quand même alors on sait pas très bien comment définir. Est-ce qu'il est philosophe, historien, politiste, il est un peu tout ça à la fois. Il a développé depuis une dizaine d'années maintenant une pensée, une œuvre, on peut dire, extrêmement, j'allais dire, intense, plus intense que brutale, si je puis me permettre. C'est-à-dire une œuvre, et ce livre-là en est vraiment, j'allais dire, une traduction absolue, enfin paradigmatique. J'ai l'impression que c'est un peu un de ses grands livres théoriques, quoi. Mais déjà, son premier livre que moi j'avais lu, je crois qu'il était sorti en 2010, que ça sortir de la Grande Nuit, je crois, qu'il avait prolongé par Critique de la Raison Nègre un peu plus tard, et puis par Politique de l'inimitié il y a quelques années, était le signe d'une œuvre en construction très très importante sur, en effet, la déshumanisation d'aujourd'hui. Et c'est vrai que le brutalisme, spontanément, tout le monde, tout lecteur lambda pourrait en comprendre un peu la portée. Le brutal, on le voit bien aujourd'hui qu'elle est dans l'exercice de la violence d'État, dans les violences policières, dans la déshumanisation que beaucoup de citoyens ressentent de manière plus ou moins, j'allais dire, explicite et évidente. Mais il y a quelque chose chez Achille Mbembe qui est assez fort, qui peut laisser à distance peut-être certains lecteurs, c'est qu'il prend un peu des réalités documentées, des réalités sociologiques, en effet, le racisme, la dépression, le burn-out, la domination sous toutes ses formes, et il essaie de les encapsuler de manière conceptuelle. Et le brutaliste serait un peu le mot qui permettrait comme ça de résumer et de traduire un peu théoriquement l'idée d'un monde déshumanisé qu'il essaie après, évidemment, de décrire de manière plus précise dans le livre.
Oui, dans cette capsule conceptuelle, pour prendre cette belle image de Jean-Marie Durand à Lucia Wadlaszewski. On trouve autant les humains que le non-humain. C'est un point important de ce livre. L'approche, évidemment, de la technique, de la technologie numérique, des technologies dites computationnelles, c'est-à-dire cette façon de mesurer, de compter, de mettre l'humain en mesure, pour le dire, et en chiffres, pour le dire d'une autre façon. Et à cette association humain-non-humain, à ce brutalisme, répond une sorte de retour de ce qu'Achille Mbembe appelle l'animisme, qui n'est pas l'animisme traditionnel qu'on peut avoir en tête, mais qui est une autre façon d'aborder cette question, Lucia Wadlaszewski.
Oui, c'est-à-dire que là, on est dans la première partie du livre, j'allais dire, c'est-à-dire la partie...
C'est toujours bien de commencer par la première partie.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut préciser peut-être qu'il y en aura une autre qui va suivre et qui proposera des solutions pour sortir du brutalisme et sortir des brutalismes. Mmh. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la manière dont, effectivement, en dénonçant d'abord cette entrée dans la combustion du monde et puis dans ce devenir artificiel de l'humanité, effectivement, il y a d'abord dans une première partie du livre, cette caractéristique de l'imbrication raison économique et instrumentale, raison électronique et digitale, raison neurologique et biologique. Et donc on voit effectivement ici que le problème qui se noue de différentes façons, c'est une des pistes possibles du livre, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a une vraie richesse d'analyse et théorique, c'est effectivement que le problème du monde aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de distinction entre le vivant et les machines. Et effectivement, le problème, c'est que l'âge numérique ou l'hyper-technologie, finalement, renvoie à des formes d'archaïsme, et c'est ça l'animisme. C'est-à-dire que l'inconscient archaïque s'accommode de l'âge numérique, c'est-à-dire que les sociétés extrêmement modernes s'enferment non plus dans le culte des anciens, mais le culte des objets, le narcissisme des objets technologiques, des objets numériques. Et effectivement, ici, il y a une dénonciation, un emprisonnement. Et justement, je pense que, pour répondre à la piste que proposait Jean-Marie, quel type de penseur, justement, je pense que quel type de penseur ou de discipline incarne Achille Mbembe, je pense que c'est une sorte de phénoménologie politique. Parce que ce qui l'intéresse, c'est comment, justement, sortir les corps de leur enfermement, toutes les formes de violence, toutes les formes de brutalité, de brutalisation, qui ont été évidemment extrêmement violentes et destructrices, évidemment, pendant la colonisation, mais aussi dans le monde post-colonial. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est comment on est passé, finalement, de la brutalisation coloniale extrêmement destructrice, de déshumanisation, à d'autres formes, aujourd'hui, de brutalisme, qui se poursuivent. Et c'est ce que voudrais d'abord dénoncer dans un premier temps, dans cette première partie, pour ensuite proposer quelque chose de très intéressant. Et je pense que, en tout cas, moi, je dirais ça un peu, c'est que le brutalisme immobile, isole, enferme, et il faut ensuite réactiver un devenir, une mobilité, une énergie, un déplacement. Et c'est là qui est intéressant, et c'est là, j'avance juste pour dire que c'est la partie un peu positive, les propositions que fait l'auteur, c'est de dire que il faut justement revenir un peu à ce que l'Afrique peut proposer, c'est-à-dire une terre d'innovation, de mobilisation, de mouvement, qui justement, il le dit, le pays natal de l'humanité, c'est l'Afrique, et les problèmes qui se posent pour la Terre aujourd'hui, qui sont évidemment aussi les problèmes d'écologie, les problèmes de sortie justement de cette hyper-technologisation, et ben désormais, ils vont se faire de manière inattendue, complexe et innovante en Afrique.
Oui, l'Afrique est aussi la terre de la réparation, c'est un terme important du livre, on y reviendra, mais tout de même, juste pour tracer encore un petit peu ce cadre dans lequel s'inscrit, ce cadre intellectuel et conceptuel dans lequel s'inscrit Achille Mbembe avec ce livre Brutalisme, et depuis un certain nombre d'années, Jean-Marie Durand, on a parlé donc de ce glissement, de la brutalisation en quelque sorte de la colonie au brutalisme de la post-colonie, il fait fait même Achille Mbembe en début du livre un petit retour sur lui-même en disant voilà, j'avais une approche de la post-colonie comme étant finalement un phénomène réservé évidemment aux espaces par exemple africains, parce que c'est ceux qui l'analysent lui, il y en a d'autres dans le monde, mais lui il se concentre sur l'Afrique en règle générale, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord, et il le dit, il dit bah voilà, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait, et c'est ce qu'il disait dans son précédent livre, une sorte de devenir nègre du monde, c'est-à-dire que cette réalité post-coloniale, cet exercice du pouvoir sur les corps, cette façon d'exercer un pouvoir aussi bien politique que biologique, pour reprendre un autre concept emprunté à Foucault, il dit voilà, maintenant ça s'applique à toute l'humanité, à l'entièreté de l'humanité.
Tout à fait, il parle en effet de devenir africain du monde, et il rappelle que le continent africain était presque un laboratoire des mutations contemporaines, puisqu'en effet, il rappelle une chose qu'on oublie peut-être, que par exemple, toutes les politiques néolibérales, qui est quand même aussi l'une des cibles, évidemment, entre guillemets, de livres, ont été appliquées dès le début des années 80 dans les États africains, avec des modalités vraiment capitalistes qui, après, ont gagné tous les pays dans le monde entier. Et donc, l'Afrique a été, de sa manière, de ce point de vue-là, un pays à l'avant-garde d'une manière d'administrer aujourd'hui l'ordre libéral. Aujourd'hui, pour lui, en effet, l'Afrique est un continent qui résume, qui traduit un peu un état du monde. Mais alors, en effet, de manière négative et positive, puisque il avance aussi l'idée sur le continent africain, sans l'essentialiser, on en reviendra tout à l'heure, j'imagine, avec le livre d'Alain Mabankou, il y a une sorte de ce qu'il appelle une pensée de la circulation, de la traversée, d'une manière un peu de se dégager des identités fixes et immuables pour essayer de tirer comme ça, disons, les relations vers quelque chose de plus énergique, de plus vivant. Ce qui est important pour Achille Mbembe, très souvent il le répète, c'est moins les identités que les énergies. C'est qu'il y a quelque chose d'une nécessité comme ça de développer une manière d'un rapport à l'autre, une énergie qui anime les conduites. Finalement, être ce qu'il appelle être en résonance avec le vivant en général. Et toutes les entreprises d'aujourd'hui d'occupation des territoires, il parle beaucoup des camps, de l'engagement, mais de l'emprise sur les corps, sur les imaginaires, ce qu'il appelle les politiques de déliaison, de démolition. Voilà. D'ailleurs, quand on lit le livre, on est juste un peu plombé, hein, faut reconnaître. Il écrit très très bien, on l'a pas dit, mais c'est une évidence quand même, faut peut-être le rappeler. C'est une écriture aussi qui est quand même assez habitée par un goût, j'allais dire, de la poésie. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'une langue très 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 belle, très très, alors très sombre, mais très précise. On sent que les mots sont extrêmement soignés, choisis. Il y a vraiment un imaginaire linguistique, enfin une langue incroyable chez Mbembe, qui est en fait, je pense, un des grands auteurs aujourd'hui de cette pensée qu'on appelle afro-diasporique, hein, parce que c'est aussi, il s'est lui-même un peu, positionné un peu comme, pas un leader loin de là, mais comme une figure, vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, comme un leader un peu important de cette pensée afro-diasporique qui aujourd'hui circule dans le monde entier. Les ateliers de Dakar qui ont été créés en 2016 en sont en effet une traduction, avec Félix Sarr, avec Françoise Vergès, avec beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui l'accompagnent dans la manière comme ça de développer une pensée à partir du continent africain pour justement aller au-delà, une pensée cosmopolite, hein, pour le dire un peu vite, une pensée de la relation, de la liaison, et qui essaye de combattre cet âge de la prédation.
Chavalazovski, en effet, il faut faire un sort à cette approche du capitalisme et du néolibéralisme par Achille Mbembe, et pour parler comme lui, en tout cas essayer de comprendre un petit peu sa pensée, et pour comment il fait le lien entre cela et la réflexion sur les périodes coloniales et le continent africain. Il parle donc d'appropriation, et le monde néolibéral, pour lui, c'est un monde sans dehors inappropriable, c'est-à-dire que tout devient sujet à l'appropriation par le capitalisme et la technique. Donc il va sur les thèmes de l'extraction des qui évidemment l'extraction des matières premières, mais aussi l'extraction sur les corps qui sont contraints, qui sont fonctionner, sur lesquels on prélève l'énergie, cette fameuse énergie dont parlait Jean-Marie Durand, et il le dit, hein, malgré tout, il y a une ponction qui s'exerce plus fortement sur les corps dits racisés, qui est un terme aujourd'hui qui fait débat, mais voilà, que lui, il utilise, et auquel il donne véritablement un sens très très compréhensible, loin des clichés qu'on peut avoir aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'était absolument central dans ce livre, c'est-à-dire qu'effectivement, contre l'ethno-nationalisme et la crispation identitaire, il va essayer, il y a un chapitre qui s'appelle « La domination universelle », ça justement, où il dénonce à la fois le capitalisme et la technoscience, et notamment dans cette idée que évidemment il faut essayer de libérer les corps, de les faire jouer autrement, de passer, si on veut, d'une sorte d'identité racine à une identité relation. Et effectivement, c'est-à-dire que se joue aux plusieurs dimensions de cette emprise. Alors le surgissement brutal, c'est bien ça, hein, c'est cette prise de contrôle perverse, sadique, l'agressivité, le racisme, la colonisation, autant de violence, hein. Il dit coloniser, c'est brutaliser. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette dénonciation des formes de pouvoir et de domination, par exemple qui vont aussi vers la phallocratie, vers tout ce qu'il dénonce en termes de fascination pour le désir de dominer les corps. On peut le retrouver.
La virilité, voilà, sur la virilité, ouais.
C'est aussi une incarnation de cette domination des corps. Et donc il essaie de montrer comment justement ces thèses de l'identité brutale, finalement, on les retrouve dans différents contextes, et en même temps aujourd'hui ça crée vraiment des formes d'enfermement absolu. Et il dit ce qu'il faut essayer de redonner. Alors je poursuis un peu cette idée aussi d'énergie et de mobilité, parce que ça se traduit aussi avec cette analyse qu'il fait de la frontière. C'est un moment aussi très très important.
Il faut défrontiériser le monde. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas c'est à peu près
compris. C'est aussi comme une forme de déterritorialisation, c'est-à-dire que le territoire enferme, le territoire emprisonne. C'est le brutalisme du capital, de la colonisation, de la territorialisation, avec cette sorte de fascination, de passion pour les sols. Hein. Il reprend la thèse sur le nomos de la terre de Schmitt, par exemple, sur cette question du droit de la terre et de ces questions-là. Il montre que voilà comment aujourd'hui, dans un monde où il faut protéiforme, il faut essayer de repenser finalement ce que sont toutes ces clôtures, toutes ces barrières, toutes ces frontières. Et je pense que c'est là où il devient effectivement philosophe, j'allais dire, parce qu'il analyse ce sens dans différents, à la fois de manière très concrète, en parlant des camps, des enfermements, des relégations des populations, et en même temps d'essayer de comprendre comment dans le psychique, dans le mental, ça se traduit, parce qu'il y a aussi une partie où il dialogue avec Freud, avec Lacan, il remobilise des conditions psychiques, et je pense que c'est là la force de son travail. Ça rejoint un peu par exemple ce que faisait Frantz Fanon aussi à son époque, c'est-à-dire que arriver à la fois à prendre des situations politiques et à montrer qu'est-ce qui se joue dans la relation au corps, dans la relation à la psyché, au psychisme des individus qui sont enfermés dans des représentations.
Ouais, Fanon qui est cité hein, d'ailleurs sur ce concept de racisé, de peuple racisé, sur la notion de masque, évidemment, on se souvient Peau noire, masque blanc, le livre de Frantz Fanon. Mais j'aimerais, pour terminer, enfin, il nous reste encore quelques minutes, mais je sais bien ce que ça va nous prendre, Jean-Marie Durand, parler justement de cette substitution, de ces solutions, comment dépasser la question de l'identité. Il faut lui substituer, nous dit Achille Mbembe, dans ce livre Brutalisme, il faut lui substituer la thématique du vivant. Et ce néo-vitalisme, comme il l'appelle, il s'ancre encore une fois dans le continent africain, car, nous dit-il, le continent africain, c'est un continent qui ouvre à l'espoir dans cette période un petit peu sombre comme on l'a décrit, et qui aussi assombri par la perspective écologique qui n'est pas du tout absente, qui est même assez très présente dans le livre d'Achille Mbembe. C'est la capacité de l'Afrique, c'est de nous montrer qu'on peut recréer du vivant à partir de l'invivable.
Alors oui, c'est une de ses grandes idées. Depuis, ça fait longtemps qu'il développe ce concept de ce qu'il appelle le projet de l'en commun. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui l'occupe énormément. Alyosha parlait de l'absence des frontières. Il appelle depuis longtemps aussi à une libre circulation dans tout le continent africain. Il y a vraiment l'idée d'une pensée qui fait place aux passants. Il dit ça souvent, si on le laisse circuler. Et donc, de sa manière, oui, cette manière de lutter contre cet âge de la prédation, c'est aussi accepter précisément l'idée d'une mobilité, d'une énergie vraiment circulaire, qui aussi a quelque chose à voir avec la crise écologique, hein, puisque c'est en fait ce qu'il appelle la crise écologique. Elle est pour lui, elle est consubstantielle du problème de la mobilité. Tout ça, c'est finalement c'est la grande question. Il faut lutter contre les deux à la fois en même temps, contre l'enclavement, contre l'humanité en cage et contre cette crise écologique. C'est-à-dire une manière un peu de rendre le vivant beaucoup plus, j'allais dire, vertueux. Et il faut donc inventer d'autres manières d'habiter la planète, tout simplement, à la fois dans les modes de circulation, dans les modes de production, dans les modes de consommation, dans les imaginaires. Et c'est vrai qu'il parle beaucoup aussi à la fin de son livre sur la question de la restitution des biens, des œuvres d'art qui aujourd'hui génèrent beaucoup de débats, notamment dans le monde artistique. Hein,
Je me souviens que Félou Insart, dont on a déjà parlé, et avec qui il fait les ateliers de la pensée à Dakar, avec Bénédicte Savoie, avait signé un rapport pour le président Macron.
Qui suscite pas mal de commentaires et pas mal de crispations, je crois qu'on peut le dire un peu, dans certaines parties du monde des musées, hein. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'Achille Mbembe défend justement une idée assez originale, qui est ce qu'il appelle l'anti-musée. C'est-à-dire que exactement comme la circulation des personnes et des biens qui pour lui doivent être aujourd'hui ouverts, etc., il faut aussi sortir finalement les objets des musées et les remettre en circulation. Exactement les humains comme les objets, il faut vraiment les sortir de ce qu'il appelle la captivité et en les rendant à la vie. C'est ça aussi, d'une certaine manière, le vivant aujourd'hui à laquelle la nouvelle forme du vivant à laquelle il invite, et que pour lui, précisément, la réparation passe aussi par cette question d'explication, et il explique bien qu'il n'y a pas de restitution sans réparation, et c'était aussi une partie un peu de son projet politique, qui est en effet, on le voit bien dans cette discussion un peu rapide, extrêmement, j'allais dire, éclatée, fracturée, et en même temps très cohérent, hein. On voit bien où il veut en venir.
Mmh. Chavalazovski.
Oui, effectivement, il y a la piste politique, là on en parlait sur la restitution, il y a la piste écologique évidemment qui est, comme disait Glissant, rien n'est vrai, tout est vivant, c'est-à-dire qu'il faut repenser le vivant dans sa globalité, dans sa complexité, dans son inattendu. Et il y a la piste esthétique aussi, parce qu'il y a l'afrofuturisme qui est aussi une manière de réinvestir des espaces créatifs. Mmh. Je pense que c'est aussi cette idée d'innovation et de souplesse, de mobilité, ça peut se jouer aussi dans différentes formes d'expression, et je pense que c'est une piste esthétique, artistique, que sans doute Achille Mbembe va continuer à poursuivre.
Eh bien... quittons-nous sur ce livre et sur cette idée d'afro-futurisme. On a encore pu parler de beaucoup d'autres choses, sur la raison électronique et algorithmique, la réponse qu'on peut lui apporter, ou encore bien d'autres thèmes qui sont présents dans ce livre d'Achille Mbembe, Brutalisme, aux éditions La Découverte.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourbois.
Lost in Yesterday, Tame Impala, le dernier titre de ce groupe. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur le dernier essai d'Alain Mabankou, 8 leçons sur l'Afrique, publié chez Grasset. Ce livre réunit, comme son titre l'indique, les leçons de l'écrivain franco-congolais, qui enseigne aussi la littérature d'expression française à l'université de Californie Los Angeles, UCLA. Ces leçons donc prononcées au Collège de France en 2016, année où il s'est vu confier la chaire de création artistique de la prestigieuse institution. On y trouve aussi à la fin du volume deux interventions sur l'Afrique, dont une lettre ouverte adressée en 2018 au président de la République sur la francophonie. Et s'il faut citer cette lettre, c'est qu'elle résume bien la position de Mabankou, qui a fait de la langue française à la fois un moyen d'expression dans ses romans et un objet de réflexion, comme dans Le Monde et mon langage, sorti en 2016. Il y rappelle que la France est un pays francophone comme les autres, qu'il existe une littérature et une pensée d'expression française qui n'est pas cantonnée à l'étranger, l'Hexagone. Il va plus loin dans ses leçons au Collège de France en se concentrant sur l'écrit en français provenant de l'Afrique noire pour combler un vide et faire résonner les noms d'auteurs majeurs et trop peu cités comme René Maran, Goncourt en 1921 avec Batwala, Yumbo Wologem, Renaudot 1968 pour Le Devoir ou encore Calixte Beyala, prix de l'Académie française en 1996 pour Les Honneurs perdus, mais aussi évidemment ceux d'Aimé Césaire, Léon Gontran-Damas, Léopold Sédar Senghor ou Mariama Ba. Mabankou retrace l'histoire, évoque les liens entre littérature coloniale française et littérature africaine d'expression française, évoque la négritude, les thématiques de la littérature africaine, interroge son oralité supposée, se demande enfin comment écrire après le Rwanda. Des questions à la fois littéraires, politiques et philosophiques qui replacent africains et africaines dans et devant l'histoire. Alyosha Wadlasowski, c'est un essai qui marche sur une ligne de crête, on pourrait dire, car tout en montrant la spécificité de cette littérature africaine d'expression française, Alain Mabankou refuse ce qu'il appelle la départementalisation de l'imaginaire.
Oui, c'est effectivement un livre passionnant, très très intéressant, qui est, comme vous l'avez dit, une sorte de traversée des littératures africaines de langue française, avec cette idée effectivement que la France n'a pas le monopole du français, et que Alain Mabankou défend une sorte de grondement des langues, comme il le dit, c'est-à-dire créer pour lui, c'est recomposer un univers, lui donner ou redonner une histoire, une géographie, des langues, et c'est ce qui est passionnant, c'est-à-dire l'idée c'est comment au fond une littérature, une véritable littérature africaine a réussi à se construire et à se dégager de la littérature écrite sur l'Afrique. Et ça, c'est effectivement, en tout cas dans la première partie, un enjeu extrêmement extrêmement fort, c'est-à-dire de montrer comment il y avait d'un côté effectivement une littérature coloniale, évidemment ethnocentriste ou avec des préjugés racistes et avec ce qu'Edouard Saïd appelle finalement l'orientalisme ou l'exotisme, c'est-à-dire une image extrêmement construite, avec souvent c'était écrit par les explorateurs eux-mêmes ou en tout cas dans les mouvements de colonisation et de domination, évidemment où il s'agit d'avoir un regard sur l'étrange ou une fascination pour l'Afrique. Et effectivement, ça, c'est une littérature qui a dominé longtemps et qui avait un regard évidemment extérieur sur l'africain et qui est complexe parce que même lorsqu'il y a eu des premiers écrits d'Européens ou d'Occidentaux qui dénonçaient la colonisation, ils n'étaient pas tout à fait pris au sérieux dans la mesure où ils n'avaient pas véritablement de prise, où ils participaient pas vraiment à l'univers africain. Exemple, je pense tout de suite à André Gide, par exemple, comme le rappelle Alain Mabankou, Voyage au Congo ou Retour du Tchad. Évidemment, c'est une dénonciation du système colonial et de l'enrichissement des entreprises françaises en exploitant évidemment l'Afrique, mais il y a eu un discrédit par la littérature coloniale qui disait que voilà, Gide est parti, a fait un voyage de 8 mois ou 12 mois et il a fait ses textes, et donc il n'y a pas de vécu derrière, il n'y avait pas de véritable présence. Donc ce sont des débats, même s'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale après ce que Gide a dénoncé. Donc en tout cas, ce qu'Alain Mabankou veut montrer, c'est comment justement a réussi à émerger la puissance de l'imaginaire, la vraie parole africaine dans cette littérature qui s'est opposée petit à petit à la parole du colonisateur qui a rejeté les clichés. Et donc ça, ce sont des élans, ce sont des étapes. Et là, Alain Mabankou est très fort et très pédagogique. Il nous explique, en tout cas très pédagogue, il nous montre comment effectivement se construit petit à petit, étape par étape, les lettres africaines. 1921, par exemple, vous l'avez dit, prix Goncourt pour René Maran. Mais voilà, il y a de nombreuses étapes finalement qui vont faire émerger, en tout cas, la première grande situation qui est en tout cas dans la négritude, évidemment, qui va être un mouvement d'abord évidemment littéraire, poétique, artistique, avant d'être aussitôt un mouvement politique. Mais disons que l'enjeu de la littérature, c'est aussi la politique.
Ouais, qui occupe la deuxième leçon de ces 8 leçons sur l'Afrique d'Alain Mabankou, publiée chez Grasset. Jean-Marie Durand, le chef Wadlasowski l'a dit, il y a une approche assez jouissive du français chez Alain Mabankou, qui nous, dès le début, qui nous dit que il ne faut pas penser qu'il y ait un déclin du français. Ceux qui pensent qu'il y a un déclin de français, c'est ceux qui refusent d'accepter qu'il y a un français autre, qu'il y a un français vivant aujourd'hui dans des littératures qui ne soient pas cantonnées à l'Hexagone.
Tout à fait. Et cette leçon inaugurale, cette présence et ces 8 leçons comme ça au Collège de France ont été, je pense, de ce point de vue-là, un moment très important. L'historien Papendia avait dit que cette conférence, en tout cas cette leçon inaugurale, avait été un virage de la vie intellectuelle française. C'était une manière pour lui de rappeler d'abord le fait que cette leçon était, bon, historique dans le sens où c'est la première fois qu'un auteur d'origine africaine arrivait au Collège de France. Et par ailleurs, qu'elle avait et que suscitait une curiosité immense. La salle était pleine, l'amphi du Collège de France avait été bondée, un public nouveau qui n'était jamais venu dans cette institution académique, un peu comme ça, un peu froide, intimidante.
Dans son avant-propos.
Voilà, il y a un monde fou. Et de cette manière, c'est intéressant. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est joué là, d'une agitation, disons, du paysage intellectuel lui-même, et qui a une manière aussi de rappeler un angle mort incroyable. C'est que c'est vrai que beaucoup de grands auteurs de langue française d'origine africaine ou caribéenne ont des enseignements prestigieux en dehors de la France. Édouard Glissant, qu'Alécha connaît bien, était prof en Louisiane. Marie Scondé avait un poste elle-même à Columbia. Achille Mbembe, on l'appelait tout à l'heure, lui était à Johannesburg et aussi à Berkeley. Souleymane Bachir Diagne, lui, était à une chaire à Columbia.
Donc, à New York, ouais.
Voilà, tous ces auteurs.
Et à la main beaucoup, on enseigne à UCLA.
Exactement. Et donc, et pourquoi les études africaines ont été aussi longtemps, négligées dans l'institution française? C'est une vraie question. Et donc, ta présence de la venue d'Alain Mabanko au Collège de France, au moins, est le signe rassurant, en tout cas, nouveau, de quelque chose qui bouge, en effet. Et je veux dire, c'est pas non plus complètement, c'est un processus qui, évidemment, a plusieurs années. Ça fait quand même pas mal d'années que beaucoup d'universitaires travaillent sur ce que Pascal Blanchard et ses amis appellent La France Noire, qui est un livre qui a été sorti il y a quelques années, que d'ailleurs Alain Mabanko avait préfacé. Donc, un peu une sorte de, il y a un travail très important lié aux études des postcoloniales sur la présence des Africains en France depuis plus de 3 siècles. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment, historiquement, ça bouge beaucoup. Mais ce qui est intéressant avec le discours de Mabanko, c'est en effet de le ramener à la littérature et d'historiciser c'est toute cette histoire, en effet, dont la négritude est un peu la première étape un peu historique forte, puisque la négritude, en effet, était le grand mouvement poétique, incarné par 3 grands auteurs comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gautra Daumas, qui sont tous les trois d'ailleurs d'origines différentes, hein, sénégalais, antillais et guyanais. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que la négritude, en fait, est un concept aujourd'hui qui est très très ancré dans l'imaginaire français, mais mal défini, parce que la négritude elle-même a beaucoup évolué dans le temps, et même chez les auteurs eux-mêmes, qui l'incarnent pas de la même manière. Alain Mabanko rappelle une petite anecdote assez intéressante sur d'où vient le mot. Le mot, la première fois, apparaît dans le texte de Césaire, Les Cahiers d'un retour au pays natal, qui avait été publié dans une revue à l'époque en 39, et puis réédité dans un vrai volume juste après la guerre. Et le mot apparaît là pour la première fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que Césaire rappelle comment il a inventé ce mot. En fait, il traverse à Paris la place d'Italie, je crois, à pied, et il se fait traiter de petit nègre par un type qui part en voiture et qui l'insulte. Et Césaire, pris comme ça par cette insulte, lui dit « Le petit nègre t'emmerde ». Et comme si c'était la première fois, comme une réactivation, comme une sorte d'inversion du stigmate, comme on le dit aujourd'hui en sciences sociales, une manière d'inventer la négritude, elle vient de là, d'une insulte, d'une réactivation, d'une sorte de réponse à une provocation.
Ce mot qui nous était jeté au visage, on l'a ramassé et on l'a fait.
Voilà. Donc,
c'est comme ça.
Donc,
ça
définit un peu une manière de vivre en nègre. Alors, Senghor le dirait que c'est un ensemble de valeurs du monde. Donc, ça, c'est des questions qui ont divisé beaucoup, beaucoup d'auteurs. D'ailleurs, les auteurs anglophones ont toujours eu un problème, enfin, beaucoup de problèmes avec la négritude. Hein. James Baldwin ne comprenait pas cette manière d'essentialiser comme ça des valeurs noires. Il était un peu mal à l'aise avec ça. Mais en tout cas, c'est un concept qui est, central dans, disons, ce qui est devenu la pensée africaine, entre guillemets, francophone.
Oui, citant James Baldwin, vous introduisez un autre élément qui est évidemment la littérature afro-américaine dans cette question-là. Et Paris qui a été, dans ses années 20, 30, entre deux guerres, on va dire, et encore un petit peu après, cet espace où pouvaient se rencontrer des Noirs américains et des Noirs d'Afrique ou des Antilles, des Caraïbes en règle générale, car ça a été un lieu de vie intellectuelle très intense. Et en même temps, Alécha Wallazowski, c'est toute l'ambiguïté, c'est là-dessus que joue Alain Mabanko, enfin, en tout cas ce qu'il essaye d'exprimer, notamment dans le passage dans la leçon sur la négritude, c'est que c'est une littérature qui oscille toujours entre la volonté de libération, il cite Mondo Betty par exemple, qui est de ce côté-là, ou une littérature comme moyen de capter une essence, de capter un individu, ça c'est Kamara Lai plutôt qui est de ce côté-là, il montre cette opposition entre les deux, et on a l'impression qu'on est toujours aujourd'hui un petit peu, on citait Papandiaï qui avait écrit ce livre très très important sur être un noir en France, qui expliquait comment c'était à la fois une volonté d'être invisible, invisible et d'être reconnu dans son identité. Voilà, c'est cette ambivalence qui est permanente et qu'on retrouve dans la littérature.
Oui, absolument, c'est tout à fait au cœur de ce laboratoire de ces époques-là, de ce mouvement pluriel. D'abord, on peut rappeler que ce mouvement poétique apparaît aussi souvent par des auteurs, par des textes, par des engagements, par des revues aussi. La revue Légitime Défense qui est plus politique, la revue L'étudiant noir qui, elle, est plus culturelle. Donc on a une sorte de période, disons pour aller vite, des années 30 avec, Jean-Marie l'a dit, août 1939 apparaît l'Homo Négritude dans la revue Volonté jusque 1956 qui est un très très grand moment parce que c'est le premier congrès des écrivains et des artistes noirs à Paris où justement en 56 se réunissent des écrivains africains-américains, des écrivains de langue française d'Afrique qui viennent faire leurs études à Paris ou d'autres qui viennent un peu sous forme de délégation. Donc il y a un vrai rendez-vous, il y a une soixantaine à peu près d'intellectuels, d'écrivains, de futurs présidents aussi de républiques, de pays d'Afrique indépendants qui vont arriver par la suite. Et donc ici, c'est vraiment une sorte de carrefour de réunion. Alors, il y a effectivement, ça c'est très intéressant, ce débat au sein finalement de tous ces artistes, c'est que Aimé Césaire dit, au bout du particularisme, on aboutit à l'universel. Si le problème de départ c'est l'homme noir, l'aboutissement c'est l'homme tout court. Ça, c'est ce que dit Aimé Césaire. Mais effectivement, il y a les réponses, par exemple, de James Baldwin qui dit « Oui, mais la situation des Africains-Américains, d'ailleurs, à Harlem, le mouvement La Renaissance de Harlem et d'autres courants ne se posent pas ce même type de questions. C'est pas du tout le même type de problématique, de situation, de combat par rapport au racisme, par rapport aux injustices. On n'a pas la même représentation, puisque la négritude, disons, comme mouvement, voulait revenir effectivement aux racines africaines et essayer de donner une identité qui a toujours été niée ou refusée. » Et donc, 1950, c'est aussi le texte des damnés de la terre. Donc on voit très bien comment il y a tout ce mouvement. Ce qui est intéressant aussi justement à cette occasion, c'est les écrivaines et les femmes écrivaines. On peut en dire un mot parce qu'Alain Mabankou explique bien aussi que voilà
comment elles ont été effacées de l'histoire.
Exactement. Voilà, on est dans des étapes très importantes, mais c'est pas encore suffisant et ça va changer par la suite. Il y aura d'autres générations et surtout dit à ce congrès des écrivains artistes noirs à la Sorbonne, très important, soutenu par Jean-Paul Sartre, soutenu par Picasso, par Léris. Il y a Joséphine Baker aussi qui enverra un mot de soutien. Il manque des grandes écrivaines. Il dit, il y a la Guadeloupéenne Mounde Rivel, les sœurs Paulette et Jeanne Noudal, Christiane Youdédiop. Elles étaient absentes et pourtant ce sont des militantes, ou Clara Shepard, militante noire américaine des droits civiques. Donc on voit que voilà, il y a des mouvements et puis après évidemment il y a des transformations. On passe à d'autres étapes. Lutte pour l'indépendance, puis ensuite combat sur la question de la modernité. Il explique par exemple il y a un livre très important de Aminata Sow-Fall qui est La grève des battus bien plus tard, là c'est une autre génération en 79 qui revient sur la grève, le combat des cheminots. Donc en fait on passe on voit qu'on change, on passe du combat politique après une forme de socio-réalisme. On a des imaginaires qui évoluent, hein, le monde est un langage pour Alain Mabankou, donc forcément il essaie d'expliquer qu'est-ce que contiennent tous ces grands textes, tous ces romans, ces œuvres poétiques littéraires et qu'est-ce qu'elles annoncent du monde à venir.
Alors il y a l'aventure de la pensée africaine, Jean-Marie Durand, mais aussi l'aventure de la production littéraire. Ça occupe notamment, ça occupe à peu près toutes les leçons, mais c'est au centre aussi de la troisième et de la quatrième leçon sur les thématiques de la littérature africaine et sur l'édition de la littérature africaine en France. Deux approches qui permettent de voir dans quel cadre, dans quel contexte et aussi quels sont les thèmes qui sont abordés, si tant est qu'on puisse parler évidemment de façon aussi unifiée. Mais voilà, Mabankou le fait.
Tout à fait. Ce qui défend beaucoup dans toutes ces leçons, quand même, ce qui traverse un peu le fil rouge, c'est ces écrivains, ce qu'il appelle des écrivains de la migritude. C'est-à-dire que c'est des écrivains qui, en effet, sont dans un élan de migration, circulent. On revient là, à nouveau à ce concept de la pensée de la circulation, de l'échange. Et d'ailleurs, Mabankou le dit lui-même, il le dit comme un statement, comme une manière un peu comme ça d'affirmer son identité ouverte. C'est que lui, il dit qu'il appartient à la génération, en effet, de ces écrivains qui sont héritiers de cette fracture coloniale, hein, de évidemment de cette mémoire, de ces stigmates, d'une opposition comme ça, frontière entre les cultures. Et en même temps, il appartient aussi à une autre génération, à des générations comme des auteurs, comme il cite souvent, comme Virginie Despentes, comme Mathias Sénard, comme Marine Diaye, comme Marie Dariussec, comme Alexis Génis. C'est des auteurs aussi avec lesquels il se sent autant d'affinité d'une certaine manière qu'avec Kossi Refoui ou Gaston Paul Effa. Enfin, on voit bien qu'il est dans cette volonté précisément d'une ouverture, d'une circulation. Et c'est ce qu'il appelle la migritude, c'est ça. C'est des écrivains qui aujourd'hui sont vraiment dans dans un refus d'une assignation identitaire et dans une manière de d'intégrer un héritage et le dépasser. Et donc c'est pour ça aussi que c'est une littérature aujourd'hui qui l'incarne lui et avec d'autres auteurs, extrêmement vivante et très, je veux dire, cosmopolite et extrêmement stimulante et je pense très très importante. Et la manière de le rappeler de manière un peu, j'allais dire, un peu docte, un peu comme ça académique au Collège de France, dans un cadre un peu institutionnel, rappeler, donner un autre curseur, un autre angle d'attaque sur la littérature française contemporaine, c'est évidemment un acte important que je pense qui a un effet politique au-delà de l'histoire esthétique elle-même.
Oui, pour continuer dans les leçons, Ali Chavalazovski, il y en a une consacrée à l'Afrique et à la France noire face à leur histoire, par exemple.
Oui, absolument. Ça veut dire qu'il faut parler au pluriel. Hein. Ce sont les littératures africaines qui se sont développées, qui ont, intégré un héritage des combats passés et qui les ont évidemment transformées. Alain Mabankou insiste beaucoup sur ce pluriel. Quoi. C'est-à-dire il y a les histoires africaines et donc il y a les littératures africaines, comme celles qui concernent le Rwanda, Gaël Faye, Petit Pays, par exemple, qui est dans la dernière, qui est très important évidemment et qui est une manière de se réapproprier une histoire à la fois personnelle, culturelle, politique et puis évidemment de tout de toute une situation historique. Donc c'est très intéressant et important cette idée à la fois de réappropriation et de fracture, de singularité et d'universel. Il revient souvent sur les débats. Prenons juste un débat sur les littératures africaines postcoloniales, puisque c'est vraiment ça dont il s'agit, de montrer la richesse, la diversité et la complexité. D'un côté, par exemple, Mongo Betty qui défend un africanisme, qui défendait un africanisme d'indépendance et de combat politique. Kamara Lai, qui écrit plutôt sur la liberté individuelle. C'est intéressant, des textes qui renvoient plutôt sur la beauté des paysages, la famille. Et même, il y a une nostalgie d'une Afrique ancestrale ou une désillusion devant la période, justement, aussi des dictatures africaines qui sont arrivées après la décolonisation. Sonny Labou-Tansi, avec La vie et demie en 1979, c'est ce qu'on appelle l'afro-pessimisme. C'est intéressant, voilà, tous ces courants qui vont jusqu'à aujourd'hui, effectivement, avec la migration. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans des déplacements. Il y a l'autobiographie évidemment qui est très importante, les romans historiques, la critique sociale, l'exaltation d'une Afrique nouvelle. Et aussi une forme de réalisme. On l'a parlé tout à l'heure, par exemple, il y a le Zola africain. Enfin, donc il y a effectivement, on voit qu'il y a des singularités. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un paysage finalement, comme s'il nous faisait un manuel, il nous apporte vraiment un manuel des histoires, des littératures africaines, avec des paysages, des singularités, des oppositions, des tensions. Et puis il dit la littérature africaine d'expression française est impulsée. C'est, pour résumer un peu, impulsé par un élan de contestation. Donc au départ, évidemment, ce sont les luttes d'indépendance. Et après, chacun à sa manière trouve sa voie, prend une direction et redonne évidemment une dignité au continent africain, c'est essentiel, mais sans africanisme grégaire, et car le monde s'ouvre. C'est ce que disait Jean-Marie, il y a cette idée justement d'ouverture plurielle, et c'est d'ailleurs, il y a un texte pour un peu réunir nos deux auteurs aujourd'hui, Achim Mbe et Alain Mabankou, qui avait écrit un livre sur par rapport à la francophonie. Hein, il faut essayer de sortir justement d'un rapport qui est fermé, même s'il peut être très vaste d'une certaine façon, la francophonie c'est pluriel, mais voilà, ils sont plutôt pour une langue monde. Je pense que c'est ça leur objectif.
Tout à fait. Non, je suis absolument d'accord. C'est vraiment ça l'idée. C'est qu'en effet, la francophonie est un concept aujourd'hui un peu usé, qui a plus tellement de vertus. D'ailleurs, il est assez critique.
Institutionnel ou voilà.
Surtout comme continuation de la politique étrangère de la France par d'autres moyens. C'est-à-dire que c'est pas du tout un espace francophone, mais c'est un espace sous l'emprise du français de France, pour le dire comme ça.
Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Alain Mabankou, je pense, c'est un peu une des stars un peu mondiales de cette littérature francophone, d'une certaine manière. Il y aurait évidemment Chimamanda Ngozi Adichie, qui serait un peu la grande star de la littérature anglophone, pour le coup, elle est nigériane. Et à mon coup, je crois, aujourd'hui, elle vit une notoriété impressionnante. Et c'est vrai que sa présence au Collège de France, il y a 2 ans, est quand même, je pense, un signe, de quelque chose d'un peu nouveau, quand même, d'un rapport un peu nouveau, disons, à cette histoire-là, à cette histoire coloniale. Et je pense qu'il faut s'en féliciter, tout en restant, évidemment, prudent sur les blocages, les tensions qui demeurent. Hein. On voit bien dans l'actualité politique que c'est permanent. Et que d'ailleurs lui-même, Alain Mabankou, il est très sensible. Hein, et je crois qu'il y a chez lui une vigilance aussi politique assez forte. Alors maintenant, il est retourné, je crois, vivre aux États-Unis. Mais on voit bien que, en tout cas, sa langue, sa parole compte aujourd'hui beaucoup sur ces questions-là.
Oui, Alyosha Berezovsky, on l'a dit un peu rapidement, mais c'est, ça s'entend dans ce que vient de dire Jean-Marie Durand, dans votre intervention précédente aussi. Il y a une recherche de l'universel. Vous avez cité Césaire, au bout du particularisme, on aboutit à l'universel. C'est loin du repli sur soi qui est souvent reproché à ce type de démarche, hein, qui va aller chercher la particularité d'une langue, d'une écriture. Là, on en est très très loin avec Alain Mamankou.
Oui, absolument, mais je peux prendre un exemple. Je pense qu'Alain Mamankou serait d'accord avec Édouard Glissant, qui a eu le prix Renaudot avec La Lézarde, un roman de 1958. Et il y a une première période chez Édouard Glissant, c'est l'antillanité de 1958 à 1981, le discours antillais, qui est vraiment un texte très très important, très dense et un vrai tournant. Et après, on passe à la littérature du tout monde, on passe à la mondialité. Donc il y a d'abord effectivement la question de qui est légitime, évidemment, qui est ancrée aussi dans un combat historique où la littérature a toute sa place et elle est même en avant-garde du combat pour l'indépendance, du combat pour la reconnaissance, du combat pour la liberté. C'est fondamental. Et ensuite, on arrive à effectivement les problématiques contemporaines qu'annonçait peut-être Glissant aussi dès les années 80, c'est-à-dire aujourd'hui une littérature monde, qu'est-ce que c'est ? Une littérature monde qui arrive justement à se nourrir des différences, des singularités pour proposer une autre voie, mais qui peut parler à tout le monde et qui peut rentrer en relation avec les autres. Donc aujourd'hui, la littérature justement monde, ou la littérature du tout monde, c'est ce que veut vraiment défendre Alain Mamankou, je pense, c'est-à-dire vraiment cette capacité de renouveler les imaginaires et de mettre en dialogue, en discussion les imaginaires les uns avec les autres, et d'être dans un renouvellement de l'esthétique, hein, finalement, de la création elle-même. Je pense que c'est ça l'idée de montrer tous ces écrivains, tous ces gestes artistiques.
En quoi ces 8 leçons sur l'Afrique sont aussi des 8 leçons sur le monde.
Exactement, oui.
Alors Alain Mamankou, 8 leçons sur l'Afrique, qui aurait pu s'appeler, ou s'intituler plutôt 8 leçons sur le monde, c'est publié chez Grasset.
L'instant critique.
L'instant critique, dernière séquence de l'émission, Alyosha Berezovsky, justement, vous venez de le citer, vous voulez nous parler de Glissant.
Je reste un peu dans le ton de l'émission. Je voulais citer une parution collective à venir, hein, aux presses universitaires de Vincennes, hein, qu'on appelle les PUV. C'est un ouvrage qui s'appelle Archipel au pluriel Glissant, qui est coordonné par François Noudelman, François Simajotzi-Bronès et Yann Thomas, et qui est en fait justement une manière de comprendre l'œuvre de Glissant aujourd'hui par rapport aux problématiques contemporaines sur la politique, les arts, le vivant, la vie dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a une actualité de la pensée d'Edouard Glissant, on l'a montré aussi avec les auteurs dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les questions de métissage, de créolisation, d'archipel, de continent, finalement c'est des questions de la littérature du monde d'aujourd'hui, qu'on retrouve dans des situations très très diverses. Je me souviens par exemple, Glissant avait eu un débat justement aussi avec des intellectuels japonais par exemple sur ces questions d'archipel, de créolisation, ou un débat qu'il a eu aussi avec Jacques Derrida sur la question de la frontière, de l'hospitalité. Donc on voit très bien comment tout ça a renouvelé, transformé aussi la pensée dans sa diversité. Et donc le volume là qui est publié dans une collection au PUF qui s'appelle Littérature hors frontières, justement, essaie de montrer finalement les analyses sur les limites, la polyglossie, la littérature dans les marges. Et montre comment aujourd'hui des écrivains qui sont venus des Caraïbes, des États-Unis, de Tunisie, d'Irlande, du Japon ou du Canada se sont réappropriés, pensent en tout cas avec, en compagnie d'Edouard Glissant. Et donc ça s'appelle Archipel Glissant au PUV. Et donc c'est un ouvrage que je recommande qui sort dans quelques semaines.
Merci Alyosha. Jean-Marie Durand, vous étiez venu avec un conseil et puis vous m'avez dit en arrivant, j'ai peut-être parlé d'autre chose.
Non mais j'avais envie de faire un écho quand même à la mobilisation des chercheurs, des universitaires depuis quand même quelques semaines qui s'activent beaucoup en ce moment. C'est vrai que on peut parler de chaque semaine des livres ici comme on le fait, mais en même temps, faut penser aussi à la manière dont ils sont eux-mêmes produits, pensés, réfléchis, et que c'est vrai que l'état de l'université en France aujourd'hui est extrêmement dans un état un peu critique, et que il faut entendre la voix de ces chercheurs qui publient beaucoup en ce moment de textes, aller sur, je sais pas, le site de Sauvons l'université, sur divers sites et de médias où en effet des chercheurs se mobilisent collectivement avec en produisant beaucoup de textes. Il y avait récemment une journée d'intervention à la Sorbonne, où d'ailleurs Achille Mbembe est intervenu pour rappeler précisément qu'est-ce qu'est le brutalisme. Et c'est un des effets, la brutalisation de l'université, sa gestion disons néolibérale pour le dire un peu vite, bureaucratique,
computationnelle,
la manière dont les enseignants-chercheurs aujourd'hui sont traités, avec très peu de budget, très peu de reconnaissance, très peu de postes. On voit bien que c'est un problème qui n'est pas nouveau, hein, qui date de plusieurs années, voire des décennies, qui est lié
qui
aussi...
Et qui ne touche pas que l'université.
Absolument.
Bien sûr, l'école, l'hôpital et la radio publique.
Tout à fait. Et d'ailleurs, les enseignants-chercheurs le théorisent eux-mêmes. Hein. Ils le mettent aussi dans un système plus général. Mais c'est là qu'ils sont en train de défendre un peu leur statut, leurs conditions de travail. Et c'est important de lire le texte parce que j'ai l'impression que c'est une mobilisation situation qui à la fois très forte et un peu sourde, comme si elle n'arrivait pas complètement à se cristalliser, à faire un enjeu de débat public, alors que je pense qu'elle est essentielle. Et il faut quand même rappeler que voilà, si on lit des livres chaque semaine, c'est aussi grâce à ces universitaires et dont il est important de saluer le combat.
Merci pour ce rappel, Jean-Marie Durand, et merci Alyosha Walaszewski aussi d'avoir participé à cette émission. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission aujourd'hui, c'était Catherine Donné à la réalisation, Vanessa Nadjar à la prise de son, Alain Joubert. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger sur notre site franceculture.fr à la page d'avis critique, où vous pourrez aussi vous abonner au podcast. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.